7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins, j'ai le plaisir de vous retrouver exceptionnellement. Juste pour ce midi, Emmanuel Bastide revient demain. Aujourd'hui, les voisins, nous allons parler d'un acte que tout ressortissant d'un pays en développement a posé au moins une fois dans sa vie, qu'il ait de la famille ou des amis à soutenir, le transfert d'argent. Les transferts d'argent dans le monde pèseront en 2016 540 milliards de dollars, selon la Banque mondiale, un montant nettement supérieur à l'aide publique au développement, voire aux investissements étrangers directs. Cette entreprise juteuse et multiforme qui ne connaît pas la crise, 9% de croissance annuelle dit-on prévu, ça fait rêver, et marqué depuis un peu moins de 10 ans par une restructuration, une prise de conscience et puis aussi de nouvelles offres qui se veulent plus proches des consommateurs, à la fois nombreux et fragiles, que représentent les utilisateurs des transferts. Alors qu'en est-il? Comment expliquer cette prise de conscience des autorités internationales? Comment fonctionnent les transferts d'argent aujourd'hui? Comment sont-ils régulés? Qu'est-ce qui a changé, évolué? Pourquoi? À quel type de produits les consommateurs peuvent-ils s'attendre? Et demain, à quoi ressembleront les transferts d'argent demain? Je poserai ces questions, les voisins, à nos trois invités. Peut-être tout à l'heure avec nous en ligne depuis Dakar. Nous sommes en train de tenter de le contacter. Papa Bey, qui est professeur de management à l'École nationale d'économie appliquée de Dakar. Et avec nous, à Issy-les-Moulineaux, elles sont bien là en chair et en os devant moi. Virginie Lucas, responsable des projets migration et développement à l'AFD. Bonjour.
Bonjour.
Et Rania Belkaya, cofondatrice et directrice d'Afri Market, agence française de transfert d'argent d'un genre nouveau, ça s'appelle le cash to good, transformation d'argent en bien. Vous nous expliquerez ça tous plus clairement tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour.
Et puis il y a vous, les voisins, vos témoignages, questions, réflexions, nous les entendons au 33 1 84 22 71 71. Virginie Lucas, l'appellation transfert d'argent est générique, mais elle recouvre en réalité des pratiques différentes, cash to good, cash to go, transfert d'argent en ligne. Vous nous aidez, vous nous éclairez?
Alors effectivement, la forme qui est la plus connue, c'est le cash to cash, c'est-à-dire on envoie de l'argent ici et puis la personne récupère de l'argent depuis un distributeur ou un comptoir d'IMF ou de banque au niveau
d'IMF.
L'institution de microfinance, pardon, au niveau du récipiendaire. Oui. C'est vrai que c'est la forme la plus connue, c'est sans doute celle où il y a le plus d'informel également, puisque ça peut passer également par des commerçants, des systèmes de commerçants à commerçants, par exemple depuis le corridor France jusqu'au Mali ou au Sénégal, où on va chez un commerçant retirer cet argent. Depuis quelques années, on a également la mise en place de plateformes online, c'est-à-dire sur Internet, qui permettent de transférer de l'argent, soit en cash to cash, soit en cash to good, et Sarania pourra nous en parler, il y a d'autres exemples également, mais il y a également les banques qui ont développé un certain nombre de produits qui permettent d'un compte à un autre, en ayant deux comptes miroirs, de pouvoir transférer de l'argent, et également depuis quelques années, même si ça ne fonctionne pas tellement bien, un système de carte prépayée, c'est-à-dire celui qui envoie à une carte au nord, on va dire pour faire vite, et celui qui reçoit à une carte au sud, qui lui permet de retirer cet argent, mais ce sont des solutions qui n'ont pas tellement bien fonctionné.
Comment on s'explique qu'elles aient moins fonctionné que les autres ?
Je pense que c'est corrélé avec le taux d'utilisation de toute façon des cartes dans les pays en développement concernés, c'est-à-dire qu'elles sont peu utilisées en domestique, il y a un taux de bancarisation qui est faible, et donc ce ne sont pas des pratiques qui fonctionnent.
C'est une question de culture.
Voilà, c'est un sujet culturel, même si effectivement on a quand même des gens qui vont être qui ne sont pas par exemple lettrés et qui vont quand même utiliser des cartes. Donc c'est un sujet sur lequel il ne faut pas être dogmatique non plus, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien.
Rania Belkaya, ce qui fonctionne bien, c'est votre entreprise. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots. Je disais en vous présentant que c'est une entreprise qui propose du cash to good. Ce qu'on connaît généralement, c'est qu'on envoie de l'argent, comme l'expliquait Virginie Lucas. Vous, on envoie de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent que le bénéficiaire touche.
Exactement. Donc, avec Afri Market, ça permet d'envoyer de l'argent et de récupérer des biens et des produits à l'arrivée. Donc, c'est ce qu'on appelle le cash to goods. C'est une alternative, effectivement, au cash to cash, qui permet d'envoyer de l'argent et de récupérer des goods soit sous la forme d'un bon d'achat alimentaire. J'envoie 100 euros dépensables en alimentaire.
Un dépensable mouton, dans deux sacs de riz,
exactement, exactement. Dépensable dans un réseau d'affiliés. Ça peut s'articuler donc avec des, je peux récupérer des sacs de riz, des médicaments dans une pharmacie, un mouton pour la Tabaski par exemple, un congélateur pour les,
pour démarrer un commerce.
Pour démarrer un commerce, effectivement. Donc il y a vraiment une typologie de produits très variée. Effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cash to goods. Et pour compléter un peu ce que disait Virginie au départ, il y a effectivement cette industrie qui est la plus développée justement à destination du continent africain.
Vous parlez du
qui
cash
est le cash to cash, mais il y a également d'autres initiatives donc comme la nôtre qui se positionne donc au-delà du cash to goods, on a également du cash to top up qui aujourd'hui commence
du cash to
top up. Donc vous êtes par exemple demain en Côte d'Ivoire,
oui,
et je vais recharger votre téléphone votre crédit téléphonique pour que vous puissiez m'appeler parce que c'est moins cher de là-bas comme le cash to goods, ce qu'on propose. Donc on envoie de l'argent et on récupère directement des produits, du cash to service, donc on va payer directement
un service dans un pays donné.
Exactement. Mais il y a également aussi du cash to mobile wallet, comme on a pu voir aussi avec l'essor de certains opérateurs.
Formidable. De toute manière, nous avons près d'une heure, les voisins, pour entendre parler, pour décortiquer ces nouvelles pratiques qui nous accompagneront. Peut-être serons-nous rejoints tout à l'heure par Papa Bey. Ça n'a pas l'air de se profiler, mais vos témoignages sont toujours attendus au 33 1 84 22 71 71. Selon la Banque de France, près de 12 milliards d'euros ont été envoyés depuis la France par des migrants vers leur pays d'origine en voie d'une petite somme d'argent régulière ou d'une somme plus importante. Selon les besoins, les transferts d'argent représentent un marché colossal, vous l'avez compris, le plus souvent vers l'Afrique ou l'Asie. Mais le système n'est pas sans faille et pourrait être amélioré. Écoutons ces témoignages recueillis par Anne-Claire Barnier dans les rues de Paris.
Ah ben moi j'envoie tous les mois, et ben j'envoie environ 300 euros par mois. En fait moi j'ai mes enfants là-bas, au pays, moi je n'envoie pas tout, hein. 100 euros par mois. Ils achètent la nourriture en même temps, le loyer.
Mais les frais de commission des opérateurs sont plutôt importants, non? Ça ne vous pose pas problème?
Ben, le montant est un peu élevé. J'envoie 10 euros. À chaque 10 euros, c'est 3 euros quel que je paye, tu vois.
Il y a beaucoup de gens qui refusent de me répondre sur le transfert d'argent et leur méthode. Est-ce que vous pourriez m'éclairer et me dire pourquoi?
Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient de l'argent clandestinement, sans assurance. Il y a pas mal de commerçants qui le font, mais ça coûte moins cher que WC Réunion et les autres opérateurs.
Ça m'arrive des fois d'envoyer, au lieu d'envoyer de l'argent via des agences, de les donner à une connaissance qui en a fait. On peut se faire des échanges comme ça et ça nous permet d'éviter les frais d'envoi qui coûtent quand même un peu d'argent.
Puis il y a d'autres solutions. Des gens, ils achètent des cartes bancaires ici, dans les bureaux de tabac, ils envoient à leur famille et eux, ils rechargent ici par Internet. Donc là, la personne qui se trouve de l'autre côté du pays, il retire l'argent. Par contre, là, c'est taxé parce que il décompte les frais de transaction. C'est la meilleure solution, de toute façon.
Et est-ce que vous ne préféreriez pas envoyer des biens plutôt que de l'argent directement?
Oui, ça changerait beaucoup de choses parce que justement, on envoie déjà des biens. Il y a déjà des gens qui font les envois de colis des biens via des containers ou d'autres moyens.
Le fret, ça coûte cher aussi parce qu'il faut avoir au minimum une quantité de 250 kg, voire 400 kg. Et donc du coup, soit on s'arrange entre familles et qu'on essaie d'envoyer en groupe.
Et actuellement, il y a d'autres solutions?
Il y a pas mal d'entrepreneurs ou des petits commerçants qui essaient de regrouper des affaires pour l'envoi. Mais vu que ça coûte cher, le kilo, il est à 7 euros. On essaie de stocker au maximum. À la fin, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de pouvoir tout envoyer.
Merci Anne-Claire Barnier pour ce témoignage, donc ces micro-trottoirs recueillis dans les rues de Paris. On a entendu d'ailleurs des clients potentiels pour Ania Belkaya et son Afri Market parmi les témoignages. Virginie Lucas, cette prise de conscience que les choses peuvent être améliorées, c'est une réalité des clients, mais aussi des instances gouvernementales internationales. Depuis quand et pourquoi?
Alors depuis 2006 en fait, on a un travail qui a été réalisé par la Banque mondiale pour mesurer en fait ces flux, en tous les cas les flux formels puisque...
Mais pourquoi 2006? Parce qu'au fond les transferts d'argent sont une réalité qui va avec l'histoire de la migration.
C'est vrai, mais pour être tout à fait honnête et je serai très précise sur ce que je vais dire, on a effectivement avec l'arrivée de la crise, même si elle date pas de 2006, mais enfin avec l'arrivée de la crise économique, on a deux sujets en fait de préoccupation. D'abord la baisse des fonds consacrés à l'aide publique au développement généralement, ou au moins la non-augmentation, alors que les besoins restent réels. Donc on cherche ce qu'on appelle des financements innovants du développement. Est-ce qu'on considère que les transferts des migrants sont innovants dans la mesure où ils existent depuis aussi longtemps qu'il y a la migration? Ça reste une question.
Mais en tous les cas, concurrent, le volume de l'aide des migrants concurrence à
largement, puisque j'assistais à une conférence la semaine dernière où un gestionnaire de fonds d'investissement sur l'Afrique nous disait que on est entre 55 et 60 milliards en direction de l'Afrique en termes d'aide publique au développement actuellement, et on est l'équivalent en fait si on prend l'Afrique au sens continental pour les transferts d'argent.
Pour ce qui est des flux formels, il y a tout ce qu'on ne sait pas en informel.
Pour ce qui est des flux formels, puisque les flux informels, on peut extrapoler,
mais enfin par définition,
ça paraît compliqué de savoir ce qu'il en est. Donc l'arrivée à la fois de la crise économique, la prise de conscience que ces flux, quand ils sont mesurés, sont résilients, c'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle, pour parler simplement, contracycliques, c'est-à-dire ils baissent pas en fait. Ils sont résilients, ils restent les mêmes, voire ils augmentent en période de crise.
Quelle que soit la conjoncture.
Oui, puisque les mesures, en tous les cas formelles qu'on a, permettent de dire que on a quand même, une solidarité grande qui s'exprime, même si le continent africain n'a pas été particulièrement touché financièrement par la crise.
Absolument.
Alors on peut considérer que c'est bien, en même temps on peut considérer que c'est négatif dans le sens où il est peut-être pas suffisamment connecté en fait à l'activité économique mondiale pour que ça ait un impact. Donc c'est
un peu
ambivalent.
Ça va peut-être sauver.
Voilà, c'est un constat qui est ambivalent. Donc à partir de 2006, on mesure ça, on se dit voilà, c'est 400, 450, 500 milliards de dollars dans le monde. Hein,
oui, bien sûr.
C'est énorme. Vis-à-vis de l'Afrique, c'est très important aussi puisqu'on a vu que c'est 55 à 60 milliards évalués pour les transferts d'argent. Donc comment on peut mieux connaître ces transferts, mieux connaître les pratiques, ça c'est un premier temps. Et puis le second temps, donc ça touche à des pratiques de la société civile, des individus eux-mêmes, donc c'est pas forcément ce que nous on va adresser en tant qu'agence de développement ou en tant qu'État à la base. Et puis ça concerne le secteur privé et son offre, ce qui n'est pas forcément l'acteur avec lequel il est le plus facile de travailler pour nous en termes d'État. Mais on apprend ensemble, et à partir de 2008, ce qui concerne la France, en tous les cas, il y a eu un gros travail de recherche et de dialogue qui a été fait avec l'ensemble des acteurs, les individus, le secteur privé et les États, avec la Banque africaine de développement, et puis les acteurs de la coopération française, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères et l'Agence française de développement.
Et qu'est-ce qui ressort de cette concertation?
Ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement il y a des blocages au niveau législatif, des blocages réglementaires.
Il y a des législations différentes selon les pays.
Voilà, ou restrictives, avec des points de blocage qui pourraient être levés, ou qui l'ont été d'ailleurs depuis, parce qu'il faut être positif. Je pense par exemple aux clauses d'exclusivité que certaines sociétés de transfert, que je ne nommerai pas puisque tous les auditeurs qui nous écoutent les connaissent, faisaient signer en fait aux opérateurs bancaires ou de microfinance avec lesquels elles travaillaient et qui en fait n'existaient pas dans la législation. Donc quand vous levez ça et quand un ministère des Finances dit aux opérateurs, le Sénégal a été le premier à le faire pour la zone Afrique de l'Ouest, eh bien non, je dénonce ça, vous n'avez pas à m'imposer
ça.
Et les établissements financiers sont en règle s'ils travaillent avec plusieurs opérateurs. Vous voyez maintenant, en 4-5 ans, je reviens d'une mission au Sénégal, vous voyez n'importe quelle banque ou n'importe quelle institution de microfinance a des pancartes avec 6 ou 7 opérateurs de transfert potentiels. Évidemment, on augmente la transparence, on augmente la concurrence et on fait mécaniquement baisser les coûts.
Les coûts, nous en reparlons. Vous évoquiez le Sénégal, Virginie Lucas. Allons-y, nous allons à Dakar avec Papa Bey, que nous avons fini par joindre. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Je disais en introduction, vous n'étiez pas encore là, que vous êtes professeur de management.
Oui.
Et j'imagine que vous avez suivi ce que disait Virginie Lucas à propos du Sénégal en pointe quant à la libéralisation des transferts d'argent.
Tout à fait.
C'est une réalité que vous vivez et que vous mesurez aussi?
C'est une vraie réalité dans la mesure où moi, quand je m'intéressais au transfert d'argent vers les années 2009, quand j'écrivais mon article sur les transferts d'argent, il n'y avait pas autant d'acteurs. Mais aujourd'hui, en 2015, on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans le secteur, si vous voulez.
Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur par rapport au moment où vous avez commencé à vous intéresser au sujet et maintenant?
Disons qu'avant, vers les années 2009, il y avait quelques banques qui faisaient le transfert d'argent.
Oui.
Il y avait un peu le CMS et le PAMECAS et l'ACEP qui faisaient le transfert d'argent en tant qu'institution de microfinance.
Oui.
Et il y avait aussi la Poste. Donc ça s'arrêtait à ça.
Et maintenant?
Aujourd'hui, maintenant, non seulement ces structures continuent à faire des transferts d'argent, mais les petites mutuelles, certains commerçants, certains tenants de magasins et tout ça font du transfert d'argent. Mais il faut faire le distinguo entre le transfert international et le transfert national et régional. Parce qu'il y a des opérateurs qui ont signé des conventions avec ces acteurs-là pour travailler au niveau national.
Oui.
Comme Wari, par exemple, c'est une structure qui travaille plus au niveau national et qui marche très bien. Il y a la structure Diony-Diony, l'opérateur Diony-Diony qui travaille au niveau national, sous-régional et qui commence à travailler au niveau international.
Donc il faut se féliciter, Papa Gueye, de cette ouverture, de cette libéralisation.
Oui, vous dites.
Il faut se féliciter de cette ouverture, de cette libéralisation.
Mais tout à fait, parce que c'est la proximité, c'est l'accessibilité. Si quelqu'un est au Sénégal et qu'on doit lui envoyer de l'argent, il ne doit pas faire trop d'efforts pour aller chercher l'argent.
Ce doit être quelque chose de facile, oui. À portée de main. Je vous propose d'accueillir un voisin qui lui est au Cameroun et qui s'appelle Martin. Papa Gueye ainsi que Virginie Lucas et Rania Belkaya. Bonjour Martin.
Bonjour Anastasie, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les voisins. Oui, alors moi j'appelle du Cameroun.
Oui.
Et je vais vous donner une vision d'un consommateur comme tout le monde, un consommateur lambda. Donc moi, je trouve que ça participe à l'économie du pays, c'est vrai, mais seulement à l'économie des gens d'une seule et même classe sociale et de certains partis politiques dont on tairait le nom au risque de finir notre journée dans un endroit inconfortable. Bon, moi, je trouve que
pour vous, c'est pas très démocratique. Les transferts d'argent ne sont pas démocratiques.
Non.
Ils ne profitent qu'à une partie de la population qui est plutôt la partie la plus aisée.
La plus aisée, la plus avec des connexions. Ils ont en fait ce qu'on appelle le pignon sur rue, quoi. Donc ça veut dire c'est toujours les mêmes gens qui ont les marchés, qui ont la visibilité sur la transparence sur où est-ce que vont les profits. Donc alors le même peuple, le bas peuple, comme les nous comme ça par exemple, on ne voit jamais où ça passe. Et nous, quand on va faire un transfert de 10 000 francs, on paye 475 francs.
Oui.
En fait, on en ressort plus pauvre qu'on est rentré. Et même vous, imaginez-vous, vous recevez 10 000 francs.
Oui.
C'est 10 000 francs. Pour peu qu'il y ait une erreur sur le nom et qu'on vous ait fait le paiement, vous êtes obligé de venir rembourser ces 10 000 francs. Et en remboursant ces 10 000 francs, vous payez les frais de renvoi, de remboursement.
Là, vous parlez d'un cas un peu particulier, d'un cas d'erreur.
Oui,
mais voilà. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi, pour vous, c'est appauvrissant pour celui qui envoie l'argent.
Pour celui qui envoie l'argent, c'est appauvrissant dans le sens où les frais sont super.
D'accord.
Super
donc, votre problème, en réalité, Martin, c'est le coût exorbitant de l'envoi.
Des frais d'envoi.
C'est une vraie question. Je vous propose qu'on demande à nos invités de réagir rapidement et de toute manière, après le flash, on continuera de réagir. Virginie Lucas, le coût, c'est une vraie question quand même. On est certes passé de 20% autour de 2010 à 12%, 12,5% aujourd'hui, mais ça reste quand même assez exorbitant.
Ça reste important et c'est vrai que les coûts des transferts en direction de l'Afrique subsaharienne sont les coûts, si on regarde une approche par continent, les plus élevés
au monde.
Ce qui est évidemment, Martin, je comprends ces griefs, mais en même temps, c'est malheureusement une logique de marché.
Logique dont on continue de parler tout à l'heure. Après le flash, 7 milliards de voisins transfèrent leur argent, coût d'envoi, sécurité des transferts et nouveaux produits. On en parle au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve après le flash, les voisins.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards, les voisins, jusqu'à 13 heures. Nous parlons argent, transfert d'argent, plus précisément. Et tout à l'heure, nous allons aborder les nouveaux produits, les transferts d'argent de demain. Mais avant cela, nous étions avant le flash avec un voisin camerounais, Martin, qui fustigeait les transferts d'argent et qui estimait qu'ils étaient au fond, ils bénéficiaient uniquement aux voisins les plus nantis à travers la planète et notamment en Afrique. Virginie Lucas avait commencé à lui répondre et vous lui disiez, Virginie Lucas.
Je lui disais que je répondais notamment aux griefs qu'il posait également sur les coûts très élevés de ces transferts, qui sont une réalité. Néanmoins, si on considère les chiffres dont on dispose, qui sont ceux notamment de la Banque mondiale, en 2009, on avait un coût moyen des transferts d'argent en direction du continent africain qui était de 13,07%, et au premier trimestre 2015, on est à une mesure de 10,21%. Donc tout ça est très précis, mais représente quand même une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris et il y a une baisse qui est liée, comme on le disait tout à l'heure, aussi à un accroissement de la transparence
et de la concurrence
surtout qui entraîne la transparence puisque les opérateurs sont obligés de pour être concurrentiels d'être transparents. Je dirais que les systèmes de transfert des coûts sont un moyen, en fait. Ils sont un moyen et donc ils ne décident évidemment pas de qui transfère, puisque ça reste un acte individuel de transfert de ressources d'un individu à un autre pour des raisons soit de solidarité, soit de relations d'affaires, pour être très clair. Donc, je pense qu'effectivement, on doit aussi sans doute distinguer les pratiques de différents pays. Martin nous appelle du Cameroun. Les pratiques sont peut-être différentes et les manières de transférer l'argent sont peut-être différentes entre la diaspora camerounaise, en tous les cas c'est ce qu'on peut voir nous en France.
En l'étudiant.
Voilà, et d'autres diasporas comme la diaspora sénégalaise ou la diaspora malienne où on a des dimensions collectives beaucoup plus fortes avec des envois réguliers, des systèmes de cotisation, etc. qui sont peut-être différents. Donc les pratiques sont différentes et les diasporas sont différentes. Elles n'ont pas migré souvent pour les mêmes raisons. Il y a le motif économique et il y en a d'autres.
Martin, vous êtes toujours là ?
Oui.
Bon, vous suivez. Alors, je vais donner la parole à Rania Belkaïd, si vous voulez bien, qui va ajouter aussi une précision, Rania.
Effectivement, il me semble que Martin parlait des transferts domestiques.
Vous parliez des transferts domestiques? Martin?
Oui, transfert domestique, oui, exactement.
Mais également, justement, sur les transferts internationaux, on voit que selon les pays, ça représente souvent 40% des revenus des ménages et qui permet justement de subvenir aux besoins courants. Et je conçois effectivement que les coûts de transfert aujourd'hui sont très chers avec une Afrique qui détient le record des taux d'expédition avec, comme nous l'a dit Virginie, 10,2 à l'année dernière. Mais un marché qui est en train de changer, donc pour des raisons justement, un assouplissement réglementaire, mais également plus de concurrence. Jusqu'à l'année dernière, il y avait un marché qui était quand même en monopole avec 75% du marché
détenu par partagé
entre deux acteurs. Et finalement, ce marché commence à suivre les recommandations de la Banque mondiale de se rapprocher des 5% de frais de transfert qui sont cibles, des 5% cibles qui permettraient finalement de remettre à terme 4 milliards de dollars au sein des migrants africains qui pourront être soit réinvestis dans le capital humain ou encore dans le capital économique.
C'est 4 milliards de dollars correspondant au PIB, dit-on, de 12 pays du continent. Martin, avez-vous été convaincu par les explications et les apports de nos invités?
Oui, Anastasie, je suis convaincu, mais il y a juste un petit volet, une question que j'aimerais leur poser à nos voisins.
Mais je vous propose de la poser à Papa Gay qui est avec nous à Dakar.
Oui, Papa, voisin.
Oui, bonjour.
Bon. Oui, voilà. Alors, j'aimerais savoir, au niveau des transferts domestiques, maintenant, il y a ce qu'on appelle, on peut ouvrir des comptes, maintenant, dans les express, voilà, j'ai tiré les noms. Et alors, dans un établissement, on peut ouvrir des comptes, oui, voilà. Et qu'arrivera-t-il en Afrique si un de ces établissements ferme ses portes et ses guichets, en portant avec eux toutes nos épargnes? On fait comment? Le suicide n'est pas dans nos traditions. Qu'est-ce qu'on fait?
Aïe, aïe, aïe.
C'est
arrivé en 2011, là, et ma soeur, elle a son carnet, tout son épargne, avec 1,5 million et compagnie, quoi.
Oui, ce qui n'est pas une petite somme. Alors, Papa Baye, comment les consommateurs africains sur le continent peuvent-ils se prémunir de ce type de déconvenus qui peuvent être absolument dramatiques si on y a mis toutes ces économies?
Ah, c'est vraiment malheureux parce que c'est des choses qui arrivent un peu dans les mutuelles.
Oui.
Ce que j'appelle les mutuelles individuelles, mais pas dans les réseaux de mutuelles. Donc, je crois que les gens ont intérêt aussi à déposer leur argent là où ils ont confiance, particulièrement dans les réseaux qui, de toute façon, même si ça devait se liquider, suivrait une procédure de liquidation bien déterminée. C'est différent des petites mutuelles qui peuvent s'ouvrir un an et puis disparaître 3 ans après.
Donc pour le moment, aucune assurance, aucun moyen de souscrire à une quelconque assurance qui permette de garantir à 1000%, à 100% la sécurité de ses fonds. Juste faire attention et s'assurer de la solidité de la société à laquelle on confie son argent.
La structure en tant que telle.
Oui.
Mais il y a une exception, c'est les réseaux. Par exemple, les réseaux Pamecas, CMS, ACEP et les réseaux émergents, il y a une assurance quoi, pour que les membres soient remboursés quand il y a des difficultés.
Virginie Lucas.
Oui, je pense que la question que pose Martin, c'est moins une question relative au transfert qu'une question relative à la qualité en fait de l'administration et de la gestion.
Absolument.
De l'institution de microfinance pour le cas qui nous occupe ou de la banque à laquelle sont confiés ces fonds. Ça relève notamment du fait que ce qu'on appelle la supervision, pour faire simple, c'est-à-dire la surveillance du respect d'un certain nombre de règles, soit effectuée notamment par le ministère des finances des pays concernés. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de projets d'appui au développement qui concernent ce qu'on appelle la gouvernance financière, c'est-à-dire travailler à ce que y ait une meilleure surveillance du respect de ces règles pour que y ait ce qu'on appelle une garantie des dépôts, hein, ce qui est effectif avec les banques. Je crois quand même que ces faillites ne sont quand même pas je voudrais pas qu'on porte préjudice à la microfinance en général, parce que il y a quand même un grand nombre et la majeure partie même de ces institutions s'efforcent de respecter vraiment les règles qui leur sont données, et elles permettent quand même une meilleure accessibilité, je pense aux zones rurales ou aux zones reléguées dans lesquelles les banques n'ont pas intérêt en termes de business tout simplement à intervenir. Donc il y a une question d'accessibilité, elle doit être couplée avec une question de sécurité, mais c'est pas forcément antinomique, c'est pas parce qu'on...
Bon, alors le conseil à donner à Martin, c'est quoi? Prudence?
Bah, c'est effectivement se renseigner effectivement sur la santé de l'IMF avec laquelle on travaille. Il y a une grande question réputationnelle par rapport à ça. Je veux dire, quand il y a des problèmes, les gens commencent à le savoir rapidement. Nous, en tant qu'agence de développement, on peut pas recommander tel ou tel réseau. Je pense qu'il faut se renseigner effectivement sur les produits qui sont offerts et sur et au niveau réputationnel sur ce que les gens pensent de l'accompagnement qui est fait soit par les banques, soit par les institutions de microfinance. On a quand même de plus en plus de transparence, et quand il y a de gros problèmes, en général, les gens ne se privent pas de faire cette mauvaise publicité.
Et l'information est relayée au plus haut niveau. Merci beaucoup, Martin, pour vos questions. Vous avez vu qu'elles ont touché à différents aspects du sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc elles étaient vraiment importantes. Belle journée à vous.
Merci beaucoup Anastasie, et puis je suis content de ce que vous faites.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Dans une radio panafricaine de la place, et franchement, bonne continuation.
Merci. Belle journée. Faites comme Martin, 33 84 22 71 71, pour nous dire quel utilisateur des transferts d'argent vous êtes. Tout de suite, c'est la musique de Jason French que je vous propose. Ça s'appelle You Just Want My Money. C'est l'humour de notre programmateur.
I remember when you first arrived, I was thinking she's a 1 + 9. Got me thinking that it might be real this time. After a while I began to see, you were faker than a plastic tree. Taking everything I let you take from me. I see you there with that look in your eyes. You say you care, I see through your disguise. You just want my money. 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 You just want my... You blew my money on a night for two. A trip to Vegas and an ocean cruise. That would have been cool, except I was not there with you.
You were with me. some other dude. See, if the only thing you want is fame, there ain't no way that you can take my name. But trust me, baby, I can think of one for you.
Jason French sur RFI, ça s'appelle You Just Want My Money. Money, l'argent, il en est question aujourd'hui, les voisins, jusqu'à 13h, puisque nous parlons de transfert d'argent et de comment on peut peut-être envisager des coûts moindres. C'est un phénomène, nous disaient nos trois invités, qui est en cours et qui est en cours depuis plusieurs années grâce à la libéralisation de ce marché qui auparavant était maîtrisé par deux mastodontes que vous connaissez forcément si vous avez l'habitude d'envoyer de l'argent. Je vous parlais de produits novateurs. L'une de nos invitées en est porteuse, Rania Belkaya. Vous avez cofondé il y a et lancé il y a quoi, 2 ans, Afri Market, qui est une société de transfert un peu particulière. L'idée, c'est que moi, Anastasie, j'envoie de l'argent à ma sœur restée en RDC. Et ce n'est pas de l'argent qu'elle touche, mais ce sont des produits alimentaires ou des médicaments ou des services. Ce qui est une chose plutôt intéressante, puisque 70% des envoyeurs d'argent aimeraient s'assurer que l'argent qu'ils envoient est utilisé à bon escient, ce qui, quand on vient d'un pays du Sud, n'est pas toujours garanti.
Exactement. Alors, Afri Market est une solution de transfert d'argent en cash to goods, comme vous l'avez bien dit.
Mais avant cela, comment est-ce qu'à votre jeune âge, vous n'avez même pas 30 ans, comment vous est venue cette idée?
Alors, j'ai 25 ans aujourd'hui, effectivement, et moi-même marocaine, donc très sensible à ces problématiques de transfert d'argent. Un de mes associés, lui, a vécu également sur le continent africain et a pu voir comment l'argent a pu été dépensé.
Et vous avez fait vos
Après,
études
on a mené beaucoup d'études
là-bas.
Sur le terrain ici, justement, en parlant aux gens de la diaspora, en essayant de comprendre pourquoi ils envoyaient de l'argent, à quoi ça c'était destiné, mais également aux bénéficiaires, en leur demandant qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'acheter avec cet argent, quels produits ils aimeraient avoir accès. Donc c'est ce qui, justement, au-delà des coûts de transfert élevés, de cette volonté de pouvoir orienter l'argent envoyé, ce qui nous a poussé à fonder Afri Market il y a maintenant un peu plus de 2 ans.
Donc produits innovants, produits moins chers que les transferts classiques, puisque vous prenez vos frais sont de 5%.
Exactement.
Donc bien inférieurs à ceux pratiqués par les autres. Et en plus, le bénéficiaire a la garantie de voir ce pourquoi il a dépensé de l'argent utilisé à bon escient.
Exactement. Donc c'est une solution finalement qui aligne les intérêts des différents acteurs. L'envoyeur, il envoie moins cher, donc il peut envoyer également
plus souvent.
Il n'y a pas de montant minimum, donc on peut envoyer 20 euros, 50 euros, avec des frais de transfert à 5 euros. Donc, contrairement aux pratiques du marché où c'est par palier, l'intérêt aussi, c'est vraiment même de pouvoir subvenir aux besoins courants. J'ai besoin d'envoyer un besoin d'urgence, 20 euros dans la pharmacie, c'est possible, en payant seulement 5% de frais. Donc, c'est très faible. Après, au-delà de ça, effectivement, l'envoyeur, il est rassuré, le bénéficiaire, il a accès à des produits de qualité, parce qu'aujourd'hui, notamment sur la santé, un médicament sur deux en Afrique est une contrefaçon. Mmh. Donc on lui donne accès à des pharmacies qui sont réglementées.
Alors c'est ce qu'il faut préciser, vous travaillez avec des partenaires.
Exactement.
Bien identifiés. Exactement. Que vous choisissez.
Donc aujourd'hui, on est présent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo. Et à partir de la semaine prochaine, une petite pensée pour Martin au Cameroun.
Bon.
On est présent à destination de ces différents pays-là et dans différents types de services. Donc on couvre l'alimentaire pour pouvoir acheter le sac de riz, le poulet, les produits frais, etc. pour sa famille, mais également la santé, donc à travers des pharmacies et des hôpitaux réputés, mais aussi l'électroménager, le bâtiment. On permet d'acheter, de faire livrer des tonnes de ciment sur son chantier.
Est-ce qu'on peut imaginer acheter un appartement à
alors maintenant,
sa maman
maintenant
via,
effectivement,
via Free Market.
Au départ, on s'est vraiment positionné sur les besoins courts, hein, donc alimentaire, santé, scolarité,
oui.
Donc les premiers besoins urgents et courants identifiés auprès de la diaspora et des bénéficiaires. Mais progressivement, en étant notre service, donc avec les bâtiments, avec la construction de maisons, avec l'achat d'électroménager, donc pour remplir la maison, l'achat de mobilier, mais également d'autres offres ponctuelles comme la Tabaski, on permet d'envoyer un mouton.
Mais donc les voitures aussi ?
Oui, bientôt. Effectivement.
Virginie Lucas, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? C'est plus qu'une idée, c'est une entreprise qui démarre et qui démarre plutôt bien, plutôt fort.
Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs initiatives qui existent. Hein. Effectivement, Free Market est sur plusieurs pays. Il y en a d'autres sur la Guinée. Je me souviens plus du nom. Ou sur le Sénégal. Je crois qu'il y a Nyokobok également qui sont sur ces logiques-là et qui
proposent des cash to good
et du paiement de factures comme vous le faites, etc. Moi, je pense que c'est un complément très intéressant à d'autres dispositifs d'envoi d'argent simple. Pourquoi ? Parce que d'abord, on fait marcher l'économie locale puisqu'il y a un certain nombre de commerçants qui sont référencés. Il y a cette question de confiance pour le monde de la diaspora qui sait où va son argent. Il faut pas se cacher la réalité. On a aussi des bénéficiaires,
des appels,
voilà, pour payer des choses. Bon, voilà, après
qui en réalité n'existait pas vraiment
ou n'était pas exactement de ce montant. Donc, on peut comprendre aussi que travaillant dur pour gagner cet argent, on a envie qu'il soit adressé aux frais pour lesquels on a décidé.
Alors, vous trouvez
de le faire.
Ça bien, mais en complément de l'envoi d'argent frais.
Rania le dit elle-même, c'est un complément effectivement de d'autres dispositifs. C'est-à-dire que quand Rania et ses associés proposent l'achat de ciment, il y a un sujet sur la qualité du matériau qui est fondamental. Ça répond à une... Ils certifient que le matériau est de qualité. Derrière, si le matériau est de qualité, mais que dans le système de construction, en termes de maîtrise d'ouvrage, on n'a pas quelqu'un qui contrôle qu'il est bien utilisé, c'est un sujet. Je pense que Rania le sait bien. Et d'ailleurs, quand elle parle de développement de l'entreprise, c'est ça qu'elle veut dire, évidemment. Il y a un enjeu de qualité, c'est-à-dire qu'il y a une revendication de la part de la diaspora que ce transfert soit porteur de qualité, quel que soit le domaine où il s'exerce.
Et diaspora, ça, je pense qu'il faut qui a été qualifié par l'Union africaine de sixième région de l'Afrique.
D'autres gouvernements, comme le gouvernement sénégalais, le disent aussi très clairement.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'on prend de plus en plus en compte cette diaspora, non pas comme un acteur de couverture d'un certain nombre de risques sanitaires, et alimentaires, etc., sécurité alimentaire, mais également comme un investisseur additionnel réel dans le développement du pays d'origine ou du pays d'origine des parents, si on considère les secondes ou troisième générations. Je pense que Rania peut, enfin je ne sais pas quelle est sa pratique vis-à-vis du Maroc, mais effectivement, il y a des mesures incitatives qui peuvent être mises en place pour qu'au-delà de cette question des transferts, la solidarité ou simplement l'investissement
le transfert de compétences
aussi également.
Papa Bey, il n'y a que des avantages à une entreprise comme Free Market.
Je crois que c'est des formes d'entreprise qu'il faut multiplier en Afrique, dans la mesure où ça permet non seulement de bien orienter l'argent envoyé, parce que au fond, l'argent qui est envoyé est destiné à une certaine utilisation.
Oui.
Et à certaines personnes. Et très souvent, quand on envoie ça d'un coup à un membre de la famille, il se pourrait qu'il y ait des déviations.
D'accord. Donc vous rejoignez à la fois le constat des créateurs d'Afrique Market et Virginie Lucas pour dire que c'est vraiment le meilleur moyen de pallier l'argent qui disparaît, qui s'envole comme ça. Mais alors une chose est extrêmement importante quand on prend conscience à la fois de la manne que représentent les transferts d'argent et de combien il pourrait être intéressant de les organiser. C'est aussi comment ça passe par la loi, par les gouvernants et par les gouvernements. Et il y a une disposition dans la loi sur la solidarité et le développement qui, depuis 2014, Virginie Lucas, entérine cette prise de conscience.
Oui, on disait tout à l'heure que depuis 2006, on a pris conscience des montants et puis on a maturé un peu au niveau international et au niveau bilatéral entre la France et ses pays partenaires, notamment en Afrique,
oui.
Du fait que des blocages devaient être déverrouillés dans des conditions de sécurité optimales, oui. Évidemment, au niveau réglementaire, pour pouvoir permettre ce passage à l'investissement. Et notamment, il y a une revendication qui était très forte de la part des banques du continent africain, qu'elles soient des filiales de banques françaises, des banques panafricaines, ou des filiales de banques marocaines, très impliquées aussi sur l'Afrique subsaharienne.
Oui.
Cette revendication, c'était de dire comment, dans quelles conditions de sécurité, on peut nous vendre des produits d'épargne et de crédit sur l'immobilier, sur l'investissement dans les PME qui sont présents dans les pays d'origine. Comment on peut les vendre à la diaspora directement? Comment on peut motiver finalement le fait que la diaspora épargne au service du développement des pays d'origine et pas seulement en termes de couverture des risques, même si c'est encore une fois très important.
Qu'elle investisse dans du dur, dans du durable.
Voilà. Donc, en fait, cette loi de la loi sur la solidarité internationale et le développement, cet amendement, il dit que dans certaines conditions, c'est soumis à un oui. agrément de la part de l'autorité de contrôle prudentielle, tout ça est bien verbeux, mais quand même, il faut être précis.
Mais réel.
Donc, les banques peuvent demander cet agrément pour pouvoir démarcher la diaspora en France et lui vendre ses produits, soit des produits génériques comme elle les vend au Sénégalais. Du Sénégal, aux Camerounais du Cameroun.
Donc adapter vraiment l'offre aux pratiques culturelles
Des clients. Et puis aux pratiques et à la demande et aux besoins que ces banques peuvent distinguer en fait au sein de la diaspora. Donc c'est parfois il y a des choses qui existaient déjà.
Mais en tout cas elles sont mises en forme. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant.
C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Je pense qu'on peut souligner le fait que la France soit innovante dans le domaine, c'est pas toujours le cas, mais qu'on peut le dire. On est assez fiers du plaidoyer qui a été fait sur la base d'études qui ont été réalisées avec la Banque africaine de développement. On les remercie d'ailleurs, nos partenaires de la Banque africaine de développement, d'avoir travaillé avec la France, le Trésor français et le ministère des Affaires étrangères et l'Agence française de développement sur ces questions. C'est la preuve que quand on met autour de la table un certain nombre d'acteurs dans leurs besoins respectifs, et leurs exigences respectives, les consommateurs, nous en tant qu'acteurs du développement, les États dans le levier qu'ils ont réglementaire sur les choses, eh ben on peut avancer ensemble sur des choses qui soient utiles pour tous. Alors bien sûr, ça date de 2014.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Cette disposition date de 2014. Reste à voir comment, dans les faits, elle va être appliquée et va aider à.
Quels sont les travaux pratiques
Alors
en ce qui nous concerne, Agence française de développement, ces travaux pratiques commencent dans la mise en œuvre de 3 projets au niveau du Sénégal,
Cameroun.
Du Mali et bientôt du Cameroun, oui. Sur lesquels on va travailler à appuyer en fait ces acteurs, notamment bancaires et de la microfinance, à adapter leur offre, s'ils le souhaitent, à cette cible de la diaspora. Quand je dis on va les appuyer, ça veut dire que l'initiative et la majeure partie des coûts de cette leur reviennent à eux. L'aide publique au développement ne va pas subventionner des acteurs du secteur privé à 100% évidemment pour ce qui relève d'un marché concurrentiel. Mais on essaye d'accompagner, on essaye d'impulser. C'est ce qu'on fait en général dans notre travail avec les acteurs du secteur privé. Il y a des politiques publiques. Comment on déverrouille les leviers d'assistance technique, de formation, d'outils, etc. pour que ça gagne le terrain.
À côté de ces dispositions légales qui vont bientôt se transformer en fer. Ania Belkaya, est-ce que vous voyez poindre de nouvelles pratiques en termes de transfert d'argent pour demain ?
Alors effectivement, nous, on le voit dans le lancement de notre entreprise. Au départ, on se positionnait vraiment sur des besoins courants. J'envoie 100 euros et ils vont récupérer dans les magasins affiliés. Et progressivement, notre offre s'est
étoffée
suite aux besoins de nos clients, donc qui sont la diaspora aujourd'hui, qui résident sur l'espace économique européen. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de zones, notamment au Sénégal, entre la région de Tambacounda et du Fouta, qui sont même pas équipées d'agence Western Union.
Ouais.
Donc il y avait zéro inclusion pour ces bénéficiaires-là. Nous, avec notre solution, on a lancé très récemment un service de e-commerce à distance, à la différence que l'envoyeur est en Europe et le bénéficiaire est en Afrique. Et on permet de livrer n'importe quel produit dans n'importe quelle zone du
Alors
Sénégal,
ça se passe comment,
de la
par
Côte d'Ivoire.
Par téléphone, portable, par...
Aujourd'hui, notre service est accessible soit via le web, bien entendu, par téléphone en payant par carte bancaire ou dans nos agences en propre. Donc, on en a une à Paris, une à Mantes-la-Jolie, et également via notre partenaire, la Bank of Africa, via ses agences à Paris et à Marseille.
Alors, les voisins pourront retrouver les coordonnées de chacun des invités sur le site, sur la page de 7 milliards, mais donnez-nous les coordonnées d'Afrimarket.
Alors, Afrimarket, on peut joindre Afrimarket sur afrimarket.fr au 0800 807 087 depuis la France.
Merci beaucoup. Papa Bey, est-ce que vous voyez des innovations poindre à suivre très rapidement?
Oui, des innovations ou un certain parallélisme.
Oui.
Je vous avais dit tout de suite que je voulais parler du secteur traditionnel.
Vous avez 20 secondes.
Qui face au coût élevé du secteur formel aurait tendance aussi à se redéployer, à se développer.
Mmh.
Et à faire comme Afrique noire, mais peut-être avec de moins de qualité. Parce que dans les villages les plus reculés, il y a des commerçants qui jouent le rôle d'intermédiaire pour
donner
des biens de consommation.
Donc s'appuyer sur eux. Merci beaucoup, Papa Bey. Merci les voisins pour votre fidélité. Au rendez-vous 7 milliards. Merci également à l'équipe 7 milliards aujourd'hui. Romain Dubrac, Didier Cherouz, Eleonore Kranik et Jonas Mallet-Solartz. Demain, les voisins, Emmanuelle Bastide revient. Elle vous donne rendez-vous entourée des célèbres tchatcheuses. Belle journée à l'écoute de RFI.